Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. C'est maintenant contre-histoire. Bien sûr. Connaissez-vous la dernière? La dernière république, bien sûr. La cinquième, quoi. La dernière parce qu'elle bouge encore. Mais aussi que... il est temps de revoir un peu de près ce drôle de cadeau que nous firent, il y a près de 60 ans, certains charlots et son prête-plume, Michel Debré. Encore une fois, Mediapart nous apporte l'essentiel sur un plateau. Grâce à l'article du 14 mars 2017, signé de Karine Fouteau et Michael Hagenberg. Article à peine caviardé par votre bafouilleuse de service. Because c'est du hard, du très hard, avec certificat de validité des plus grands constitutionnalistes du moment. Et que le constitue, il y a plus poétique en ces jours de printemps, et que vous pourriez légitimement zapper, hors des articles X, Y et même 16, pour aller batifoler ailleurs. N'est pas canard enchaîné qui veut. Et que mesdames et messieurs les juristes me pardonnent mes audaces langagières, c'est pour la bonne cause. Alors, causons. Une nouvelle tête à la présidence de la République pourrait parfaitement s'accommoder de la cinquième. République. Nomination, référendum, état d'urgence sont déjà en vigueur. Quelques semaines suffiraient pour mettre en place un état musclé. Peu d'institutions seraient en capacité de résister. Sans jouer à se faire peur, essayons de prendre la mesure de ce qui pourrait advenir. Tel programme est connu, mais peut-on le mettre en œuvre? Quel pouvoir la Constitution offre-t-elle pour contrer les résistances à naître? Peut-on façonner, et en combien de temps, un État autoritaire? Quels seraient les possibles contre-pouvoirs si un régime s'attaquait aux libertés fondamentales? La Ve République, dont de Gaulle avait dû promettre en 58 qu'elle n'avait pas été taillée pour un dictateur, peut-elle permettre, quelques 60 ans plus tard, la mise au pas d'un pays? Une chose est sûre, les candidats en lice n'annoncent pas de 6e République, ni de changement de régime. Comme le dit sur Mediapart Paul Alliès, professeur émérite de sciences politiques à la faculté de droit de Montpellier, le régime de la Ve République est parfaitement compatible avec une conception césariste de l'exercice du pouvoir. Ah, qu'en termes élégants, ces choses-là sont dites. Mais on peut s'attendre à moins d'élégance dans les faits. L'article 5 de la Constitution affirme en effet que le président assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Clé de voûte du système, il veille au respect de la Constitution. Il en est donc l'interprète. Et on sait quel est le rôle capital de tous les interprètes. L'article 15 en fait aussi le chef des armées, susceptible de décider seul de l'usage de l'arme nucléaire, nous dit le constitutionnaliste Bernard Mathieu, professeur à l'école de droit de la Sorbonne, Université Paris 1, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature et vice-président de l'Association internationale de droit constitutionnel, c'est tout pour le moment. Toute prévision est d'autant plus compliquée que les dictateurs n'annoncent pas souvent la couleur avant leur accession au pouvoir, et que beaucoup de paramètres sont encore inconnus, à commencer par la future composition de l'Assemblée nationale. Le nouveau pouvoir y obtiendrait une majorité. Pour augmenter ses chances de succès aux législatives, rien ne l'empêcherait de convoquer un référendum immédiatement après l'élection présidentielle afin de mettre en place un scrutin partiellement ou intégralement proportionnel, qui lui serait plus favorable. Même s'il est impossible de prévoir par avance les contours d'un futur régime autoritaire, un barrage juridique n'est jamais qu'un barrage de papier, commente un conseiller d'État. Voici ce que le président serait en mesure de faire grâce aux attributions que lui confère la Ve République. Alors, avant d'envisager toutes ces catastrophes, vous pouvez boire un coup, vous installer confortablement. On va faire provision d'optimisme avec Mozart. Thank you. Vous êtes prêts à tout? On y va. Les pouvoirs de nomination peuvent fabriquer un État autoritaire en quelques semaines. Ce sont les attributions qui inquiètent le plus Lucie Sponciado, maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Est-Créteil, qui a consacré sa thèse à cette question. Compétence de nomination du président de la Ve République, chez Dalloz évidemment, daté de 2017. On ne peut pas plus à jour. En droit, le pouvoir théorique du président de la République en la matière est relativement limité, puisque la plupart des nominations exigent le contreseing du Premier ministre. Mon œil. Il est en pratique beaucoup plus étendu qu'il n'y paraît. La compétence théorique a vite mué en un pouvoir de nomination et de désignation subtilisé par l'Élysée. Et c'est parce qu'il s'agit d'un pouvoir capturé, marque de la puissance de la personnalité, du charisme, voire de l'intimidation, que les contrôles pesant sur lui se caractérisent par leur inefficacité, affirme-t-elle. L'enjeu est immense. Il peut concerner plusieurs dizaines de milliers de postes et place les personnes nommées vis-à-vis du président dans une situation de déférence et d'attente particulièrement dangereuse dans la mesure où elle ruine les contre-pouvoirs. En quelques jours ou semaines, Recep Tayyip Erdogan a bien bouleversé la machine étatique. Et j'en profite pour adresser un salut fraternel à nos amis arméniens en cette période anniversaire. Et je rappelle les émissions que nous avons consacrées à l'Arménie sur Canal Sud, rubrique Chronique Art contre Histoire, et aussi sur SoundCloud, s'ils n'ont pas effacé tous mes travaux parce que je ne les ai pas payés. Après avoir rappelé que le président de la République nomme le Premier ministre et trois membres du Conseil constitutionnel, l'enseignante distingue six domaines d'intervention principaux pour les emplois de direction. Alors, résignez-vous, il y en a une tartine. Les producteurs de richesses publiques, SNCF, RATP, Poste, Paris Aéroport, Pôle emploi, ANDRA, c'est-à-dire l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, dont on va bientôt reparler, l'ASN, Autorité de sûreté nucléaire, ça fera partie du poème, le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, pour compléter. Les finances, Autorité des marchés financiers, Caisse des dépôts, Banque de France, haute administration liée aux finances, administration centrale, etc., etc. La haute fonction publique, les directeurs d'administration centrale, préfets, ambassadeurs, recteurs d'académie, professeurs de l'enseignement supérieur, secrétaire général du gouvernement, secrétaire général des administrations, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le directeur des services actifs de la police et les chefs de service de l'IGPN, inspection générale de la police nationale, les SEUS dits bœufs-carottes, etc. Les militaires, les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, les médias, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui lui-même nomme les présidents des sociétés nationales de programmes parmi lesquelles France Télévisions et Radio France. La justice, les magistrats judiciaires après avis du Conseil supérieur de la magistrature, certains membres du Conseil d'État, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, certains membres du Conseil constitutionnel et certains membres du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà. C'est ça, la structure étatique. Et quand on a tout ce monde dans sa main, bien sûr, on est près de la toute-puissance. Ou pire, on peut se mettre à en rêver. Les emplois les plus exposés au pouvoir politique sont aussi parmi les plus stratégiques, puisqu'ils sont ceux qui assurent le fonctionnement de l'État. Il s'agit principalement des emplois de la haute fonction publique, appelés emplois à la décision du gouvernement. Jolie expression, vous ne trouvez pas ? Révocables à tout moment, ils sont soumis au pouvoir discrétionnaire de l'exécutif. Selon les estimations de Lucy Sponciado, les nominations les plus importantes, celles qui font tourner la boutique et sur lesquelles les présidents gardent un œil jaloux, concernent environ 600 postes. Pour mesurer la rapidité avec laquelle un président peut marquer de son empreinte l'administration, il faut regarder les années 81-82. En un an et demi, trois quarts des directeurs d'administration centrale avaient été remplacés. La quasi-totalité des recteurs et 90% des préfets. Ah oui. Deux modes de désignation coexistent selon l'article 13 de la Constitution et la loi organique du 28 novembre 1958. Les nominations par décret simple du président de la République et celles par décret en Conseil des ministres. Le Premier ministre dispose de l'administration et choisit les personnes nommées. Le président de la République, de son côté, signe, mais n'est théoriquement pas habilité à désigner. Mais en fait, il garde la mainmise sur les nominations. En validant l'ordre du jour au Conseil des ministres, il choisit par avance les personnes retenues. Selon les observateurs avec lesquels je me suis entretenue, les nominations ne sont pas discutées en Conseil des ministres. La décision a été prise en amont, indique Lucy Sponciado. Quand le président de la République ne se penche pas en personne sur un cas, le secrétaire général de l'Élysée et les conseillers s'en chargent, qui, eux, sont nommés par le président de la République. Les marges de manœuvre du Premier ministre sont réduites. Michel Rocard me l'a confirmé, indique Lucy Sponciado. Le chef du gouvernement se limite à un rôle d'influence. Aller dans les salons avant que la décision ne se prenne pour suggérer le nom de quelqu'un ou au contraire tenter de l'écarter. Foutez la paix à la contre-signature, m'a-t-il dit, pour me faire comprendre un jour que le rôle du Premier ministre était secondaire, insiste-t-elle. François Mitterrand a fait passer un décret élargissant la liste des nominations. Sous Sarkozy, qui suscitait quelques méfiances, un contrôle du Parlement visant à encadrer le pouvoir de nomination du président de la République a été introduit à l'alinéa 5 de l'article 13 de la Constitution. Il permet aux commissions permanentes compétentes des assemblées de formuler un avis sur les choix présidentiels avant les nominations. Mais en étudiant ce dispositif, on a montré son inefficacité à limiter le pouvoir présidentiel. Il concerne peu de postes, 54, et permet au mieux un contrôle de l'erreur manifeste de désignation. Même en période de cohabitation, les nominations restent un des instruments de pouvoir les plus efficaces du chef de l'État. Les présidents n'ont jamais lâché sur les nominations, insiste Lucy Sponciado. Michel Charras, proche de François Mitterrand, raconte que lors de la première cohabitation, 86-88, le président et son premier ministre s'entendaient pour décider à tour de rôle de la nomination des préfets. ce qui n'a pas empêché Mitterrand de bloquer des nominations de ministres. Ainsi, celle de Giscard et Le Canuet aux affaires étrangères, François Léotard à la défense, Étienne Dailly et Jacques Larcher à la justice. Alors, Giscard aux affaires étrangères, en même temps que Mitterrand président, ça aurait pu être rigolo. Par contre, François Léotard, il me semble bien qu'il était passé à la défense finalement. Il a dû s'entêter, faire des pieds et des mains. À propos de François Mitterrand, Michel Charras conclut son entretien avec Lucie Sponciado. Dans l'exercice de cette fonction de nomination, Mitterrand a exercé pleinement ses compétences. Il a été le chef de l'État qui nomme. Point. Et il regardait de très près les mouvements des préfets et, bien sûr, ceux des ambassadeurs aussi. Même quand ce n'étaient pas les plus gros postes. En anticipant la cohabitation, François Mitterrand a fait adopter en août 1985 un décret élargissant la liste des nominations qui lui revenaient. Le nombre des emplois de direction concernés est passé de 85 à 163, doublé. L'objectif était précisément d'allonger la liste pour garder la main, a confié à Lucie Sponciado Jean-Louis Bianco, qui était alors conseiller du président. Dans les années 90, la tendance s'est inversée. Leur nombre est revenu à 91. Non que les présidents se soient désintéressés de ce pouvoir, mais parce que les postes visés par le décret dans les établissements et entreprises publiques et les sociétés nationales, ces postes ont fait l'objet de coupes budgétaires à la suite de privatisations et du désengagement de l'État. En revanche, le prochain président disposerait d'une marge de manœuvre limitée s'il souhaitait mettre la justice de son côté. D'abord, comme le rappelle un ancien membre du Conseil constitutionnel, d'abord parce qu'il ne peut pas imposer n'importe qui comme magistrat. Il faut une formation, être passé par un concours. Même si la magistrature est plutôt conservatrice, on y compte très peu de gens d'extrême droite. Les magistrats du siège, c'est-à-dire les juges en titre et d'abord les présidents des tribunaux, cours d'appel, d'assises, de cassation, ces magistrats, sauf quelques exceptions, sont nommés par décret après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui signifie que le président est lié par l'avis rendu. Il n'a pas le choix. Et il est difficile d'imposer une mutation à un magistrat qui ne le souhaite pas. La décision finale est donc dans les mains du Conseil supérieur de la magistrature. Le pouvoir exécutif dispose d'un levier. Les vœux de mutation fonctionnelle ou géographique des magistrats se font auprès du ministère de la Justice où la direction des services judiciaires a le pouvoir de proposition au Conseil supérieur de la magistrature, ce qui permet de favoriser la promotion d'une personne ou d'une autre. Autre fragilité. La majorité des membres du Conseil supérieur de la magistrature ne sont pas des magistrats, ah oui, mais des personnes qualifiées, comme on dit, ce qui peut permettre au président de placer des amis avec quel cursus, je me demande. Le prochain renouvellement n'aura toutefois lieu qu'en 2019. Mais l'exécutif a une marge de manœuvre plus importante pour les magistrats du parquet, c'est-à-dire les procureurs, l'avocat général, les substituts, qui font appliquer la loi pour défendre la société. Le Conseil supérieur de la magistrature donne un avis simple sur ces nominations. Les récents ministres de la Justice ont voulu montrer qu'il n'interférait pas dans cette procédure. Mais l'exécutif peut avantager des magistrats proches de ses idées. Sans compter évidemment les instructions qui pourraient être données. Le parquet, soumis en théorie à l'autorité hiérarchique, aura-t-il la force de refuser d'horribles instructions? Par exemple, de déclencher la chasse aux musulmans? S'interroge Patrick Henriot, magistrat au tribunal de grande instance de Bobigny. S'il y a des dérives policières, couvriront-ils les policiers? Y aura-t-il allégeance ou résistance aux nouvelles directives? Ça peut infuser très vite. Chacun va être plus ou moins perméable aux instructions. La question se pose d'autant plus que le processus d'avancement et de notation par le chef de juridiction peut encourager l'obéissance. Mais Patrick Henriot se veut relativement confiant. Si le parquet inculpe à tour de bras, ça n'empêchera pas le siège de relaxer. En précisant, sous Sarkozy, la durée moyenne d'emprisonnement a augmenté. Les magistrats sont donc perméables au discours répression, emprisonnement. Voyons maintenant le risque majeur du recours au référendum. Autre faille de la Constitution qu'un président pourrait exploiter. Plusieurs thèmes de référendum sont évoqués. Suppression du Sénat, limitation du contrôle du Conseil constitutionnel. Ah oui. Inscription de la préférence nationale dans le préambule à la Constitution. Abrogation des dispositions sur les discriminations. Reconsidération de la Convention européenne des droits de l'homme. Retour au septennat non renouvelable. Sortie de l'Union européenne, peine de mort en 2003. Rétablissement des frontières douanières, demandé en 2004, interdiction des révisions constitutionnelles par voie parlementaire, envisagée en 2005, et, dans un programme de 2017, organisation d'un référendum en vue de réviser la Constitution et conditionner toute révision future de la Constitution à un référendum. Et d'élargir notamment le champ d'application de son article 11 que nous allons voir. En effet, pour en appeler directement au peuple, deux procédures cohabitent dans ce texte fondamental de la Constitution. L'une, prévue à l'article 89, vise à réformer la Constitution, mais en exigeant le vote conforme d'un même texte de projet ou de proposition de loi par les deux assemblées, ce qui suppose d'avoir une majorité parlementaire. Pour être définitive, cette révision doit être approuvée soit par référendum, soit par les 3/5 des élus réunis en congrès. Élus de l'Assemblée nationale et du Sénat, comme on sait. L'autre procédure, l'article 11, utile en cas de cohabitation, et permet de court-circuiter le Parlement. Hautement inflammable, cette procédure. elle fait l'objet d'une controverse pour les pouvoirs élargis qu'elle donne au président de la République. Seul le général président Charles de Gaulle l'a utilisé. En 62, pour instaurer l'élection du président au suffrage universel, là, le oui l'a emporté, et en 1969, pour réformer le Sénat. Et la victoire du non a provoqué son départ de l'Élysée. Selon l'article 11, le président de la République, sur proposition du gouvernement, pendant la durée des sessions, ou sur proposition conjointe des deux assemblées, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Sans attendre les élections législatives, un président, pour se conformer à la mention « pendant la durée des sessions », pourrait décider, par décret, de réunir le Parlement en session extraordinaire. La session ordinaire est interrompue en raison de la campagne présidentielle, ce qui suppose que, soit la majorité des députés, soit le Premier ministre, en fasse la demande. Ce sont les articles 29 et 30. Ce dernier cas, par le Premier ministre, étant le plus probable, évidemment. Le bal des convocations populaires peut commencer par un autre thème qui pourrait rendre grand service au nouveau pouvoir. La réforme du mode de scrutin, instaurant une proportionnelle intégrale, censée favoriser l'implantation de tels partis, notamment aux élections législatives. En peu de temps, s'imposerait un changement du paysage institutionnel et idéologique radical. On pourrait considérer qu'un tel recours au référendum pour instaurer un scrutin proportionnel constituerait un détournement de pouvoir. Mais rien ne l'interdit juridiquement, estime Bertrand Mathieu. Dans un coup de force, il est même envisageable de l'imposer. Dans la foulée de l'élection présidentielle, coupe en cours aux élections législatives prévues les 11 et 18 juin 2017, transformant aussitôt les règles du jeu démocratique en faveur du pouvoir. C'est là une porte étroite, mais réelle. Même si le président nomme un gouvernement de combat, on peut imaginer qu'il déclenche la procédure avant que ce dernier soit renversé par l'Assemblée, ajoute-t-il Bertrand Mathieu. Quand il y a détournement d'un régime d'exception, ça se retourne contre son auteur. La réforme initiée par Nicolas Sarkozy et adoptée en Congrès en 2008, c'était l'introduction du prétendu référendum d'initiative populaire, réclame également un abaissement du nombre de signatures d'électeurs requises pour mettre le référendum en place. 500 000 au lieu de 4,5 millions. Selon Bertrand Mathieu, en cas de cohabitation, cette brèche du référendum est l'une des rares dont disposerait le président. Ses pouvoirs seraient limités. Il ne peut faire passer aucune loi, ne peut modifier aucun traité sans l'aval du Parlement, rappelle-t-il, évoquant les précédents Mitterrand-Chirac, Mitterrand-Balladur, Chirac-Jospin. Sur les affaires intérieures, le président a le pouvoir d'empêcher, mais pas de décider, En matière de relations internationales, les pouvoirs sont partagés entre le président et le premier ministre. Il y aurait un pouvoir de blocage des deux côtés. Un ancien conseiller d'État résume: le référendum est notre point faible. La préférence nationale qui consisterait à avantager un patient français par rapport à un patient étranger à l'hôpital serait inconstitutionnelle. Mais si elle est votée par référendum, le Conseil constitutionnel n'intervient pas. Ce magistrat prend l'exemple de la Suisse où une votation a engendré l'interdiction de construire des minarets, bien que la disposition soit contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, pourtant pierre angulaire des valeurs européennes. En France, il pourrait, par exemple, en être de même pour la peine de mort. Une hypothèse peu réaliste. Le président pourrait-il s'octroyer les pleins pouvoirs décrits dans l'article 16 de la Constitution, tels que De Gaulle les a utilisés, unique fois dans la Ve République du 23 avril au 29 septembre 1961, après la tentative de putsch de quatre généraux opposés à l'indépendance de l'Algérie. Grâce à l'article 16, le général put proroger, sans discussion parlementaire, l'état d'urgence, appliqué à partir du 22 avril 1961, allonger la durée de la garde à vue à 15 jours, et étendre la pratique de l'internement administratif aux partisans de l'Algérie française. Selon Bernard Mathieu, il n'y a aucun risque qu'un président y recourt en 2017 dans la mesure où les conditions inscrites dans la Constitution sont suffisamment précises pour l'en empêcher. Les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux doivent être menacées d'une manière grave et immédiate, au point que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels serait interrompu. Ça fait en effet beaucoup. Serait-il si inimaginable qu'un président considère, par exemple, un afflux massif de migrants comme une menace à l'intégrité du territoire? C'est possible, même si ce serait totalement excessif. Mais encore faudrait-il que ces migrants fassent un putsch et occupe les principaux lieux de pouvoir, ce qui apparaît hautement improbable, explique Bertrand Mathieu. Qui nous rappelle que l'usage des pleins pouvoirs par le général de Gaulle a été vivement contesté. Dans l'hypothèse où le nouveau président s'emparerait de cet outil, la procédure de destitution, article 68, on peut s'en souvenir. Article 68, jamais utilisé au cours de la Ve République, pourrait être engagé, prévient-il, car son action constituerait une violation manifeste de la Constitution. l'opportunité historique de l'état d'urgence déclenché au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, régime d'exception prolongé 5 fois, court au moins jusqu'au 15 juillet 2017. Le nouveau président n'aurait pas à faire le premier pas. En décidant de prolonger d'autant l'état d'urgence, le gouvernement a joué avec le feu, regrette Patrick Henriot. En effet, le Conseil d'État n'a rien trouvé à redire aux mesures exceptionnelles qui n'avaient pas de lien direct avec l'état d'urgence, par exemple des assignations à résidence de militants qui comptaient manifester à l'occasion de la COP21. Et ce, au motif qu'il ne fallait pas que les forces de l'ordre s'éparpillent au détriment de la lutte contre le terrorisme. On est déjà allé assez loin dans l'accoutumance à ce type de décision, regrette Patrick Henriot. Serge Slama abonde. Un président peut aller très loin et très vite grâce à l'état d'urgence. Interdiction de séjour, interdiction de réunion. Les militants des droits de l'homme pourraient être considérés comme créant un trouble à l'ordre public, explique ce maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Nanterre, qui ne considère toutefois pas cette hypothèse comme la plus probable. Je l'imagine plutôt d'abord tenter de rassurer, avant de progressivement durcir le régime à la manière d'Erdogan en Turquie. Pour François Saint-Bonnet, professeur d'histoire du droit à l'Université Paris 2, qui vient de publier « À l'épreuve du terrorisme, les pouvoirs de l'État » chez Gallimard cette année, les gens ne sont pas nécessairement prêts à vivre sous un régime autoritaire. Et je ne crois pas qu'un tel régime pourrait détourner à son profit les mécanismes qu'autorise l'état d'urgence. Quand il y a détournement d'un régime d'exception, ça se retourne contre son auteur. En 1830, quand Charles X utilise abusivement les pouvoirs spéciaux de la charte de 1814, ça donne les Trois Glorieuses, les 3 jours de révolte des 27, 28 et 29 juillet 1830, à la suite desquels le roi abdique. Bien sûr, il est toujours possible de créer les conditions d'une crise politique comme en 1850, mais pour François Saint-Bonnet, le risque majeur se situe plutôt en cas de nouveaux attentats. Là, on peut tomber dans l'état d'exception. Avec les attentats, on s'éloigne de toute rationalité. Un régime peut instrumentaliser l'angoisse. Les arguments émotionnels balaient alors toute rationalité. Conseil d'État, tirerait-il les leçons de l'histoire? Il est peut-être l'institution centrale dans la résistance qui pourrait être opposée à un exécutif dirigé par un pouvoir musclé. Mais remarque une juge administrative, on a vu les limites du Conseil d'État lors du contrôle de l'état d'urgence. Cette même juge s'interroge. Est-ce que les juges administratifs pourront jouer le même rôle que les juges fédéraux face au décret Trump? Une ancienne figure du Conseil d'État, aujourd'hui à la retraite, rappelle qu'en théorie, le problème ne se pose pas. On ne peut pas peser sur le Conseil d'État. Le Conseil d'État est consulté sur les lois pour lesquelles il rend un avis consultatif. Traditionnellement, le gouvernement suit ses avis. Si le Conseil d'État s'était opposé à la déchéance de nationalité, c'était fini, estime Serge Slama. C'est ce qui s'est passé sur la question de la privation de liberté des fichiers S. Le Conseil s'est opposé, le gouvernement a suivi. Mais en 1940, les conseillers d'État ont prêté serment au maréchal. Mais en pratique, le gouvernement est libre de ne pas suivre ses avis consultatifs. Tout en sachant que s'il ne les suit pas, des décrets sur le sujet risquent d'être retoqués devant les tribunaux administratifs quelques mois plus tard. Dans ce cas, les décisions du juge s'imposent au pouvoir public. Si le décret est annulé, il devient nul. Et les avis du Conseil d'État peuvent lourdement peser dans la décision sur la constitutionnalité d'une loi que prendra le Conseil constitutionnel. L'ancien membre du Conseil d'État explique « Pour le gouvernement, l'autre moyen serait de remplir le Conseil de gens dociles. » Le tour extérieur, ce qu'on appelle, ou mode de nomination des conseillers d'État par le gouvernement. Le tour intérieur, c'est par vote des conseillers déjà en poste. Le tour extérieur lui permet de nommer quasiment à sa guise. Mais à moins de changer le mode de recrutement, cela ne concerne qu'un nombre limité de postes. Cette stabilité est-elle la garantie d'une forme de résistance? Bien sûr, en 1940, les conseillers d'État ont prêté serment au maréchal Pétain. Mais tout le monde, au Conseil d'État, est interpellé par notre propre histoire. Et depuis, les droits de l'homme ont fait une percée. Convention européenne des droits de l'homme, Déclaration universelle des droits de l'homme, tout un corpus de textes concordants. Chaque conseiller est pétri de ça. Ça donne aux juges français beaucoup de force. Je ne crois pas que les choses pourraient se répéter. Serge Slama ne se montre pas du tout aussi optimiste. Lui qui dit ne pas savoir s'il démissionnerait de la fonction publique en cas d'accession d'un parti autoritaire au pouvoir, rappelle que dès 2018, il faudra remplacer l'actuel vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, et que le successeur sera choisi par le président de la République. En théorie, il pourrait même virer l'actuel vice-président du jour au lendemain. Mais la dernière fois que ce fut fait, c'était à la Libération. Si se prétend républicain, ça serait difficile. Ce professeur de droit estime que récemment le Conseil d'État a tenu fermement la barre sur Dieudonné, sur le Burkini. Et au fil du temps, il a gagné en autonomie. Mais historiquement, en période de troubles, le Conseil d'État tempère, guère plus. Il laisse faire le pouvoir en place. Il arrondit sans s'opposer frontalement. On l'a vu pendant la guerre d'Algérie ou lors du passage de la Deuxième République au Second Empire, lorsque le Conseil d'État est devenu fidèle à l'empereur. Le Conseil constitutionnel, ultime rempart? Peut-être. Le nouveau président ne pourrait pas se débarrasser du président Laurent Fabius. Et il faudrait rester un paquet d'années au pouvoir pour se constituer une majorité au Conseil constitutionnel. Le prochain renouvellement de 3 membres ne se fera qu'en 2019. Cependant, le fait de ne pas avoir nécessairement à nommer des juristes, comme c'est le cas dans certains pays, faciliterait la nomination de personnalités politiques proches du nouveau parti présidentiel. Un ancien membre du Conseil constitutionnel explique « Quand il y a des régimes autoritaires, les cours constitutionnels sont fragilisés. Les deux possibilités sont d'agir sur les nominations ou d'amoindrir leur pouvoir. Ça n'est pas possible aux États-Unis, mais chez nous, le Conseil constitutionnel commence tout juste à prendre ses marques, à passer du statut d'institution politique à celui de juridiction. C'est plus fragile. Le Conseil constitutionnel a en effet basculé du statut d'organe régulateur des pouvoirs publics en 1958 à celui de juge de la constitutionnalité des lois, au point qu'il est même parfois qualifié du nom, du titre, de troisième chambre. Et il s'est imposé comme protecteur des lois et libertés en vertu de la garde qu'il exerce du préambule de la Constitution. Pour censurer une loi ou une partie d'une loi, encore faut-il qu'elle soit anticonstitutionnelle. L'ancien membre du Conseil constitutionnel rappelle « Une loi scélérate n'est pas forcément anticonstitutionnelle. » Eh oui. Au-delà du Conseil constitutionnel, Serge Slama voit un autre enjeu. Rester ou pas dans la Convention européenne des droits de l'homme. Sortir de la Convention permettrait au nouveau président d'imposer des réformes qui, sinon, ne passeraient sûrement pas. Comme cette proposition de mettre fin à la scolarisation des enfants étrangers en situation irrégulière et d'exiger une contribution pour ceux dont les parents en situation régulière ne travaillent pas. Quatrième pouvoir, affaibli, La loi du 15 novembre 2013 rétablit le régime juridique en vigueur avant la réforme de 2009 en confiant à nouveau au Conseil supérieur de l'audiovisuel CSA le pouvoir de nommer les présidents des sociétés de l'audiovisuel public, France Télévisions, Radio France, France Média Monde. Ces présidents sont nommés pour 5 ans par le CSA, à la majorité des membres qui le composent, sur des critères de compétence et d'expérience. Est-ce à dire que la prochaine élection serait sans conséquence sur l'audiovisuel public? Françoise Laborde, ancienne membre du CSA, tempère. Les chaînes dominantes sont toujours du côté du pouvoir. Et en termes d'intervention, tout est possible. Tout dépend du patron, estime l'ancienne présentatrice de télévision pour qui il n'y a pas de pire censure que l'auto-censure. Selon elle, un président a toujours la possibilité de changer les règles. En 1984, pour se débarrasser de Pierre Desgroupes, président de France Télévisions, François Mitterrand a bien abaissé l'âge plafond des présidents d'entreprises publiques. Eh oui. Elle nuance toutefois son propos. Les chefs de service sont plus importants que les grands patrons qui ne sont pas dans la salle de montage. L'habitude est telle, validation d'un présentateur, demande de réduction des émissions d'investigation, choix par le président de la République des journalistes qui vont l'interroger. L'habitude est telle que rien ne semble garantir contre un interventionnisme présidentiel. Qui veillera à le limiter ? Certainement pas le CSA, qui se renouvellera en 2019, qui n'intervient que sur ce qui se passe à l'antenne. La crise récente à iTélé a démontré, si c'était nécessaire, que l'autorité ne risquait pas de soutenir une rédaction contre son patron. François Beck, ancien membre aussi du CSA, n'exclut pas qu'un président se réattribue les pouvoirs de nomination, mais ne voit pas pour autant comment il pourrait changer l'audiovisuel public en outil de propagande. Patrick Bloch, député socialiste qui a porté la loi Liberté, Indépendance et Pluralisme des médias en 2016, croit aussi dans la capacité de résistance des sociétés et des rédactions. Il ajoute « Paradoxalement, l'audiovisuel public est peut-être mieux protégé de l'interventionnisme que le secteur privé. Les représentants de l'État sont minoritaires au conseil d'administration de France Télévisions. Dans le privé, les intérêts économiques des actionnaires peuvent être contrariés par les choix du président, ou pas. En dehors de l'audiovisuel, le président disposerait de 2 leviers intéressants. Les aides à la presse, plus d'1 milliard d'euros versés aux journaux et à la presse en ligne. Et sur Internet, la possibilité de revenir à la situation antérieure à février 2014, on s'en souvient, afin d'empêcher la presse en ligne de bénéficier du taux réduit à 2,1% de TVA de la presse écrite. Pour Patrick Bloch, il lui sera difficile de mettre le 4e pouvoir à terre. Ah ben j'espère bien. Thank you. Et voilà, grâce à Mozart et à Fazil Say, vous voyez maintenant ce qui cause mon tourment. Vous savez tout, des recettes pour installer la dictature. Mais ne nous accusez pas à l'avance, les candidats sont hélas bien informés de ces grosses ficelles. Wait and see now. Et vous retrouverez tout ça, bien sûr, sur canalsud.net, rubrique chroniqueur contre histoire. À la semaine prochaine.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.